Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Notre invité aujourd'hui est un invité connu, puisqu'il s'agit de notre ami Fabrice Madouas.
Bonjour Benoît.
Qui est donc secrétaire de rédaction du magazine France Catholique, du magazine prestigieux France Catholique.
C'est gentil, mais j'espère que nos lecteurs nous attribuent également les mêmes qualificatifs
et que nous les méritons. Qui a maintenant 102 ans.
102
voilà.
ans, voilà.
C'est une vieille dame.
Magazine fondé par le général de Castelnau voilà. En 1924 pour lutter contre le programme anticlérical du cartel des gauches.
Voilà. Vaste programme.
Vaste programme, mais en tout cas, il l'a fait avec succès. Réunissant dans la Fédération nationale catholique qu'il avait créée au moins 2 millions d'adhérents,
oui.
Avec
oui.
des manifestations importantes qui ont fait reculer justement ce cartel des gauches.
Et on peut dire que sa pensée est le combat de France catholique ne fait que prendre de plus en plus d'actualité.
Je pense qu'il demeure actuel, effectivement, au regard de la situation politique de notre pays.
Alors, cher Fabrice, on a trois thématiques, mais essentiellement quand même deux, à savoir le numéro qui vient de sortir donc de France catholique traite de Léon XIV, pape missionnaire, il fait un petit peu un bilan, on peut dire, de sa première année de pontificat. Et puis, il ouvre la perspective du voyage qu'entreprend le pape actuel en Afrique, avec cette première étape à Hippone, qui est donc le lieu de naissance de Saint-Augustin, où il a célébré donc la messe hier après-midi dans cette fameuse basilique Saint-Augustin. Magnifique basilique Saint-Augustin.
Basilique édifiée au XIXe siècle, oui. Tout proche, tout près de celle que Saint-Augustin lui-même au Ve siècle a connue. Et d'ailleurs, le pape Léon XIV en a visité les ruines avant de célébrer la messe donc dans la basilique la plus récente.
Et vous aviez publié auparavant, on en dira un mot, mais un numéro particulièrement consacré à Mère-Yvonne Aimée de Malestroit. À l'occasion de la publication d'un livre remarquable du père Joël Guibert.
Absolument.
Sur sa spiritualité.
Absolument, une religieuse dont l'héritage spirituel est également très fécond.
Alors, venons-en un petit peu à Léon XIV. L'éditorial de notre ami Émeric Pourbet s'intitule « Léon XIV de l'Afrique à l'Europe ». Et il détaille trois qualités essentielles de son gouvernement depuis un an. Oui. J'aurais aimé que vous entriez dans ces trois qualités, développiez un petit peu ces trois qualités qu'il énumère.
Alors, on n'en sera pas surpris, puisqu'on commence à connaître l'homme et son humilité. Et l'humilité, en fait, fait partie, évidemment, de ses qualités. Sans doute est-il moins tonitruant, moins démonstratif que ne l'était son prédécesseur, mais on voit bien en fait qu'il trace sa ligne, il trace sa route, toujours fidèle évidemment à l'enseignement de l'Église, sans éclat, mais avec en fait une fermeté réelle. On l'a vu en fait récemment, y compris sur des questions d'actualité, quand il s'agit en fait de défendre la paix contre la guerre. Il a dit très clairement en fait où se situait le message de l'Église.
Oui.
Les limites, et sans jamais effectivement se départir de ce calme et de cette fermeté bienveillante qu'on lui connaît. Donc effectivement, je dirais l'humilité fait partie de ses qualités.
Avec humilité liée à une vie intérieure.
Oui, à une vie intérieure, une spiritualité.
C'est évident.
Une spiritualité. Le cardinal Cor nous a accordé un entretien, et il dit vraiment en fait que c'est un homme de prière, et que c'est dans la prière qu'il trouve cette sérénité-là, dans son dialogue, en fait, avec Dieu. Et voilà, alors on ne s'en étonnera pas, en fait, quand même, de la part d'un pape, mais c'est vraiment un pape spirituel, c'est un fils de Saint-Augustin, ce sont les premiers mots qu'il a eus sur la loggia à la basilique Saint-Pierre lors de son élection. Je suis un fils de Saint-Augustin, et c'est vraiment en fait dans cette spiritualité qu'il se situe.
Oui, christocentrique, comme on dit.
Christocentrique, absolument. Et puis l'unité, hein, il insiste en fait sur l'unité, comme Saint-Augustin insistait également. Saint-Augustin qui a lutté contre des hérésies au 5e siècle.
À savoir qu'il faut trouver l'unité dans celui qui est l'unité.
Voilà, exactement.
À savoir qu'il n'y a pas d'unité en dehors de Jésus-Christ.
Mais c'est ça, c'est exactement, c'est la doctrine en fait, la devise qu'il a adoptée quand il était évêque au Pérou et qui est tirée en fait de saint Augustin, « In illo uno unum », que l'on peut traduire « En celui qui est un, soyons un ». Voilà. Et tout ce message en fait parcourt justement son enseignement depuis qu'il est souverain pontife, et on l'a vu aussi d'ailleurs en Algérie, où il a appelé à l'unité, à la paix et à l'unité.
Il reprend en cela une encyclique de Jean-Paul II.
Oui, hein, oui.
Pour que tout soit un.
Voilà, exactement. Donc on est bien en fait dans la continuité du message de l'Église, voilà, avec un style effectivement qui lui est propre.
Aymeric Pourbet écrit « Il est précis, déterminé, efficace lorsqu'il s'agit de décider comme les Américains savent l'être. »
Oui, 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 c'est vrai, absolument. Bon, il y a une forme d'efficacité, mais parfois, l'efficacité chez les Américains confine à l'utilitarisme.
Oui.
Lui, non, ça n'est pas ça. Hein. On n'est pas du tout dans un matérialisme, on est au contraire vraiment en fait, dans l'affirmation de la foi. Mais cette efficacité aussi ne se conçoit pas sans effort. C'est-à-dire que la foi, ça n'est pas simplement quelque chose qui nous est donné. On doit se former également et on doit entretenir cette foi-là. Et donc, pour viser à cette efficacité et viser à cette fidélité, il faut, s'infliger en quelque sorte une certaine discipline quand même.
Il faut reconnaître qu'il a il a un certain sens de la prophétie, parce que son premier voyage, enfin de ses premiers voyages, a été quand même le Liban.
Oui.
Or, le Liban est aujourd'hui en train de vivre un moment historique, peut-être d'une réconciliation qui pourrait lui apporter la paix.
Alors, il s'est rendu à Nicée, hein, enfin pour en Turquie, puis ensuite au Liban.
Oui. Bon,
Nicée, de toute manière, c'était un voyage qui était prévu et qu'aurait fait en fait François s'il avait pu le faire. Donc là, il est inscrit. En fait, c'est pas dans le programme de François.
Puis Nicée, c'est le credo de Nicée Constantinople.
Voilà, les 1700 ans en fait du credo de Nicée. Donc là aussi, en fait, une affirmation plus que symbolique et réelle en fait de la foi. Et le Liban, où il a eu des paroles d'apaisement, et malheureusement on voit bien qu'aujourd'hui la situation n'est pas telle qu'il souhaiterait, et d'où cet appel permanent en fait à la paix, mais qui est non pas en fait une paix issue de compromis, mais qui est une paix qui serait enracinée en fait dans une foi réelle, et une foi dans le Christ, une foi en Dieu.
Il y a peut-être une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre aujourd'hui, enfin depuis hier.
Il faut espérer que chacun des protagonistes retrouve raison.
Oui.
Voilà, et peut-être aussi se convertisse, réellement.
C'est tout le problème. Alors, la troisième caractéristique énumérée par Aymeric, c'est la dimension missionnaire.
La dimension missionnaire, là, on le voit aussi à travers cette... ce périple qu'il fait en Afrique, 17 700 kilomètres en 10 ou 11 jours, je crois.
Oui.
Et l'Algérie est une étape importante, certes, mais n'est jamais en fait qu'une étape de ce périple-là, qui va le conduire en Angola, au Cameroun, en Guinée équatoriale, après l'Algérie. Donc une vraie volonté. En fait, c'est le pasteur de l'Église universelle. Hein, c'est vraiment, il faut regarder en fait tous ces propos à l'aune en Algérie.
Il n'a pas oublié qu'avant l'Algérie, il est allé à Monaco.
Et qui est allé à Monaco.
Et pas pour des raisons vaines.
Non, où le catholicisme est religion d'État.
Et où le prince s'est opposé et à l'avortement. Et à l'euthanasie.
Voilà, donc ça dit bien quand même, en fait, symboliquement, il n'est pas étonnant qu'il soit allé là. En tout cas, il a vraiment affirmé cette nécessité, en fait, pour les autorités des pays de retrouver cet ancrage dans la doctrine chrétienne.
L'enseignement à fer de lance.
Oui, oui,
pour l'enseignement. Le souverain pontife, dans ses rapports avec les États européens, une saine laïcité ne doit donc pas se contenter de réaffirmer les principes, ce qui est déjà un bon début.
Alors, c'est très intéressant parce qu'on parle en fait du pape missionnaire. Oui. On avait un pape François qui était très tourné vers les périphéries.
C'est ça.
Mais le pape Léon XIV sait aussi que l'Europe est devenue une terre de mission ou est redevenue une terre de mission et même était le cœur battant en fait, de la chrétienté auparavant. Et donc, il faut s'adresser aussi aux vieux pays européens. Il ira en Espagne bientôt. On espère qu'il ira, Emmanuel Macron est allé récemment au Vatican et on espère que le pape Léon pourra venir en France aussi. Et il a déjà adressé 9 messages depuis qu'il est sur le trône de Saint-Pierre, 9 messages explicites à la France, aux Français, et notamment justement sur cette laïcité.
C'est incroyable, j'allais vous y conduire.
Et sur cette laïcité, oui. Il avait interpellé en quelque sorte une délégation d'élus français qui étaient allés le voir l'an dernier, et il avait évoqué justement les difficultés qu'il y avait à exprimer sa foi dans un pays, la France, où la laïcité est mal comprise. Ce sont réellement ces termes, ces mots. Donc voilà, on a vraiment un pape qui...
Premier message. C'est à l'occasion du centenaire de la canonisation de Saint-Jean-Eudes.
Oui, Saint-Jean-Eudes.
Ce qui n'est pas un hasard.
Non, ça n'est pas un hasard. Sainte-Thérèse de
Saint-Jean-Marie Vianney et Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus.
Voilà, donc trois saints, en fait, quand même, qui sont...
Trois saints capitaux.
Des capitaux qui sont magnifiques.
Le saint du cœur de Jésus.
Voilà. Et on voit, en fait...
Le saint du sacerdoce et la sainte... de la petite voix.
Exactement, et on sent en fait réellement qu'il saisit en fait toute occasion, il est réellement attentif à l'actualité de l'Église en France, de la France tout simplement, et s'il a saisi en fait cette occasion-là, ça n'est évidemment pas par hasard. Voilà, c'était l'occasion en fait pour lui de rappeler quelle était la mission de l'Église de France et la mission de la France.
Il appelle les évêques à toucher le cœur des personnes qui sont au plus loin de Dieu.
Exactement, donc c'est où l'on retrouve en fait la notion de pape missionnaire. Et dans l'un de ses tout derniers messages, alors comme il y en a 9, j'avoue que je ne me souviens plus en fait lequel exactement, mais il cite la France fille aînée de l'Église. On retrouve une expression qui court.
Il défend également le 28 août 2025, il défend avec détermination, c'est lui qui invite à défendre, avec détermination la dimension chrétienne de l'enseignement catholique spécifique qui, sans référence à Jésus-Christ, perdrait sa raison d'être.
Voilà, exactement. Et puis, on a noté aussi que le nouveau secrétaire général de l'enseignement catholique, Guillaume Prévost, était présent dans la délégation qui s'est rendue au Vatican avec Emmanuel Macron. Et ça n'est évidemment pas un hasard, quoi. Donc il y a vraiment, là, on peut espérer, en plus on sait la situation de l'enseignement catholique aujourd'hui, qui est soumis à de très nombreux contrôles, donc il y a une réelle nécessité d'affirmer ce qu'on a appelé son caractère propre, en tout cas la défense de la foi.
Il est préoccupé effectivement par la foi en Europe, et vous avez réalisé un entretien très intéressant à ce propos, avec le cardinal Koch.
Voilà.
Je ne parle pas allemand, hélas.
Non, mais je l'ai appris récemment, la prononciation aussi.
Et effectivement, cette foi en Europe, d'ailleurs, va sans doute expliquer les voyages qu'il va faire en Espagne, etc., après ce périple africain.
Voilà, pour essayer en fait, de revivifier, bien évidemment, cette foi, le cardinal Koch nous dit qu'il est préoccupé. Et lui-même, le cardinal, s'exprimant à titre personnel, il dit « Je pense que l'Europe est en train de perdre ses valeurs chrétiennes. C'est surtout au commencement et à la fin de la vie humaine que se posent de grands défis. Certaines décisions des gouvernements en Europe sont très provocantes. » Et bien évidemment, il fait allusion au projet de loi sur la fin de vie, il dit pudiquement sur la fin de vie, sur l'aide à mourir, enfin voilà, tout un tas de périphrases pour dire qu'on s'apprête à légaliser.
On n'est d'ailleurs même pas certain qu'il vienne au mois d'octobre. J'ai appris cela par quelqu'un de tout simplement de l'aéroport d'ADP, des aéroports de Paris. Il disait qu'il préparait toujours très à l'avance la venue des chefs d'État étrangers et qu'il semble que Rome veuille remettre à l'année prochaine le voyage du pape en France à cause de cette loi sur l'euthanasie Alors c'est, qu'il c'est, a demandé à Macron de...
C'est à voir, il serait bien justement que le pape puisse venir. Et d'ailleurs, le sujet en fait, a été évoqué avec eux, le sujet de la fin de vie a été évoqué entre eux lors de cette entrevue au Vatican le 10 avril. Alors effectivement, l'examen du projet de loi a été repoussé de quelques jours. Enfin, il doit revenir là le 11 mai. Ensuite, bon, il suivra en fait le parcours législatif. Si Léon XIV en tout cas ne venait pas, ce qui serait vraiment très dommageable, parce que ce serait souhaitable en tout cas qu'il puisse venir, compte tenu d'ailleurs de cette actualité-là aussi.
Parce qu'il peut venir malgré tout, ne serait-ce que pour dire ce qu'il en pense.
Il peut bien évidemment en fait
de manière
venir
aussi subtile.
Et de manière toujours très subtile. Oui. Je veux dire, il s'exprime là. On l'a vu également dans son discours aux autorités algériennes. Il est toujours très subtil. Mais voilà. Après, il y aura l'élection présidentielle de 2027. La coutume du Vatican n'est pas non plus de faire des voyages trop proches en fait d'élections. Mais voilà, écoutez, on a bon espoir malgré tout. Les évêques français semblent confiants. Le cardinal Aveline a dit qu'il espérait que à l'automne le pape puisse venir. Donc faisons confiance au cardinal Aveline.
Oui, effectivement. Il y a une caractéristique dont parle le cardinal Koch. On a parlé évidemment de Saint-Augustin et de son souci d'unité, mais il y a également l'Eucharistie, qui est au centre de sa mission.
Oui, c'est ça, c'est avec l'unité entre l'Église et l'Eucharistie. L'Eucharistie n'est pas simplement l'un des sacrements, l'Eucharistie et l'Église, c'est la même chose. C'est ce que nous dit...
Vous citez le cardinal de Lubac,
L'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église, c'est ce que disait le cardinal de Lubac, ce que rappelle le cardinal Koch. Et évidemment, vous disiez en fait que le pape est très christocentré, ce qui est... Ouais, c'est normal, hein. Voilà, bien sûr, mais voilà, rappeler la valeur en fait de l'Eucharistie... c'est autour de l'Eucharistie en fait que l'on se retrouve, hein, autour de ce sacrifice que les chrétiens se retrouvent, et c'est à cette source qu'ils se revivifient.
Véronique Jacquier, qui est une de vos rédactrices habituelles et consoeurs.
Excellente consoeur, et que l'on peut voir d'ailleurs aussi sur CNews.
Sur CNews, et le samedi et le dimanche.
Et le samedi et le dimanche, et elle participe également à des entretiens, en tout cas des échanges entre différents éditorialistes.
Oui, et notamment avec le Père Thomas autour d'une émission qui met en valeur les différents saints.
Les belles figures de l'histoire. Les belles figures de l'histoire le samedi et le dimanche en quête d'esprit avec Aymeric Pourbet.
Alors ce qui est frappant, c'est que elle pose au Père Xavier Lefebvre une question quant à la fameuse mosette de soie pourpre que porte le pape depuis son élection. Et la réponse du père Lefebvre est très intéressante, parce qu'il renvoie à la signification de cet habit.
Des deux habits. Ce sont des habits, d'ailleurs, que le pape François avait abandonnés.
Oui.
Voilà.
Il porte la même croix pectorale que Jean-Paul II et Benoît XVI pour la messe des Rameaux, notamment.
Voilà, exactement. Et donc, a revêtu Benoît XVI. Et la mosette représente le pouvoir de juridiction. Hein. Elle est rouge et elle évoque le sang du Christ et du martyr. Et l'origine de toute autorité dans l'Église se retrouve évidemment dans la passion du serviteur souffrant. Et c'est ce que représente la mosette, revêtue par Léon XIV. Et l'étole est le signe de sa charge pastorale et du pouvoir d'ordre, d'ordination, sont des signes qui prouvent que le pape a conscience d'habiter la fonction qu'il a reçue et qui sait les porter avec humilité également.
Alors avant d'aborder le numéro spécial, qui devrait sortir dans peu de temps.
Le 24 avril, voilà.
Le 24 avril. Voilà,
un numéro spécial
qui s'intitulera...
L'épopée de l'Algérie chrétienne.
L'épopée de l'Algérie chrétienne. Voilà. J'aurais aimé qu'on dise un mot, notamment des articles que vous confiez. Donc vous confiez la rédaction à des philosophes, à des penseurs, et notamment à celui du même numéro dont on vient de parler, va-t-on s'ennuyer au ciel ?
Ah oui, oui.
c'est une vaste question que se posent beaucoup de chrétiens.
C'est un article, j'allais dire, plein d'humour de Ronan Archer, qui est enseignant. En l'occurrence, nous a donné un article pour la rubrique apologétique. Rubrique apologétique où l'on peut retrouver également un autre philosophe, Frédéric Guillot, qui est tout aussi brillant plein d'humour lui aussi. Et le père, l'abbé Paul Roy, de la fraternité sacerdotale.
Il répond à cette question notamment en écrivant « Au ciel, nos désirs ne seront pas éteints, mais transfigurés ».
Voilà, oui, ce qui est une belle formule, mais ce qui m'amuse, alors il faudrait que je le retrouve parce que je n'ai pas également, c'est ce qu'il dit en fait sur Descartes. En fait, Descartes se demandait précisément s'il n'allait pas s'ennuyer au ciel, et je ne sais plus qui disait, mais finalement, Descartes ne se demande pas si Dieu ne s'ennuierait pas à le fréquenter toute l'éternité.
Oui, effectivement.
Ce qui renverse en fait quand même bien la perspective. Voilà, il faut avoir l'humilité
Dieu
aussi.
Dieu est surabondante et active, dit-il.
Voilà.
Donc on ne voit pas en quoi on pourrait s'ennuyer et ressentir de la fatigue en ce sens-là.
Voilà, et puis l'éternité en fait. Ça n'est pas la conception que l'on a, en fait, du temps long.
Alors, j'ai retrouvé, d'un passage dont vous parlez, ce jugement. En fait, ça vient d'André Frossard.
André Frossard.
André Frossard, qui, effectivement, avait une plume très, très fine, dont on appréciait tant le cavalier seul dans le Figaro.
Dans le Figaro.
Voilà. Et je vais le citer. « Descartes craignait de s'ennuyer à contempler Dieu 10 000 ans. L'idée claire et distincte ne lui est jamais venue que Dieu pourrait s'ennuyer plutôt à contempler Descartes. Notre grand arpenteur des limites du bon sens ignorait tout de la contemplation qui n'est soumise ni au temps, ni à l'étendue, ni au règlement du bureau des poids et mesures. »
Ça, c'est magnifique, cette formule.
C'est magnifique.
Le bureau des poids et mesures.
Oui. Voilà. Alors, écoutez, je vous invite donc à parler de ce numéro qui va paraître. Alors, ce sera un hors-série, c'est le deuxième hors-série que vous avez publié chez France Catholique, puisque le premier était consacré aux 100 ans.
Voilà, à l'histoire de France Catholique et aux 100 ans.
On peut se procurer d'ailleurs ce numéro auprès de vos bureaux.
On peut toujours se le procurer, soit
au
sur Internet.
Au prix de 8,90 €, toujours.
Alors, ça c'est le prix en fait, du numéro frais de port compris. Voilà, c'est-à-dire que si vous commandez en fait, sur le site Internet ou directement à nos bureaux, je pourrais vous rappeler en fait, le téléphone.
Oui.
Vous paierez en fait, donc 8,90 € pour le hors-série sur l'Algérie chrétienne. Et le hors-série, en fait, sur les 100 ans est à 4 euros, mais auquel il faut ajouter, là, pour le coup, les frais de port.
Oui, il faut les frais de port.
Donc, on est à peu près, en fait, dans les mêmes sommes.
On peut dire qu'il faut donner la même somme pour l'un ou pour l'autre,
voilà,
effectivement.
Exactement.
Et on peut vous appeler pour cela ?
Oui, oui.
Vous écrire, c'est quand même plus facile, peut-être.
Oui, oui, alors, on peut nous écrire à France Catholique, 21 rue de Varize, 75 016 Paris. Et le numéro de téléphone, si vous souhaitez en fait vous joindre, soit pour commander ce numéro, soit pour vous abonner à la revue qui est hebdomadaire, le numéro de téléphone est le 01 44 54 22 64. 01 44 54 22 64.
Et l'adresse courriel contact@france-catholique.fr.
Voilà, france-catholique.fr, c'est l'adresse également du site internet de France Catholique.
Alors venons-en à ce numéro à paraître, ce hors-série, Foi et Histoire, l'épopée de l'Algérie chrétienne, Léon XIV sur les pas de Saint-Augustin. Alors, il faut reconnaître que Léon XIV est resté très peu de temps en Algérie.
Oui.
Deux jours. Mais qu'on peut dire que ces deux jours ont été quand même extrêmement denses, puisque non seulement il a prononcé un discours en arrivant devant le fameux monument dit des martyrs, où il a finalement prêché pour le pardon.
Oui, et puis
et
surtout,
même
il a,
pour,
il a une phrase, il dit « alors que les conflits continuent
contre la rancune.
Voilà, contre le ressentiment, alors que les conflits continuent de se multiplier partout dans le monde, on ne peut pas ajouter du ressentiment au ressentiment de génération en génération. » Voilà, donc les choses sont quand même clairement dites. À un moment donné, il est temps, en fait, de tourner la page, et c'est vrai que le pouvoir algérien, pour justifier son impéritie et son incompétence, met tous ses mots sur le compte de la France. Bon, voilà, donc c'est son là, ce ressentiment.
La rente mémorielle, comme disait Macron.
Voilà, la rente mémorielle, en fait, qui lui permet, en fait, d'éviter de rendre des comptes, ou en tout cas de s'exprimer sur justement ces difficultés et ces mots.
D'abord, d'y voir clair dans son histoire, déjà, et puis... Ensuite, de servir les siens, parce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les nouvelles générations en Algérie sont quand même très délaissées.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a eu un message à la jeunesse adressé clairement à Léon XIV. Et j'essaie de retrouver également son discours, le discours qu'il a tenu aux autorités, à la société civile et au corps diplomatique. Oui. Et il dit clairement « J'exhorte donc ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité dans ce pays à ne pas craindre cette perspective et à promouvoir une société civile vivante, dynamique et libre, dans laquelle on reconnaisse en particulier aux jeunes la capacité de contribuer à élargir l'horizon de l'espérance pour tous. » Et c'est là, en fait, le plus intéressant encore. « Les autorités, dit Léon XIV, sont appelées non pas à dominer, mais à servir le peuple et son développement. » Voilà, donc les choses là aussi sont clairement dites en présence justement de toutes les autorités algériennes. Voilà, donc ne pas dominer le peuple, mais le servir.
Contrairement à ce qu'ont raconté certains ex-ambassadeurs dans les médias et qui finalement disent un peu n'importe quoi sur ce que la pensée, sur la pensée et les discours de Léon XIV. Il faut toujours revenir au texte.
Je ne crois pas, en tout cas, que l'on puisse dire qu'il ait épousé la vision des autorités algériennes. Voilà.
Non, c'est... Alors, ce très beau numéro...
Mais il le fait toujours subtilement. Hein, toujours subtilement.
Ce très beau numéro, avec des illustrations magnifiques, d'ailleurs.
Merci.
Parce que c'est un pays magnifique.
C'est un pays magnifique.
C'est un pays magnifique.
C'est un pays
que
magnifique.
Nous ne connaissons pas. Il n'y a pas de tourisme en Algérie. Il n'y en a pas.
Alors, malheureusement, moi, je n'y ai jamais mis les pieds non plus, mais j'ai lu, en fait, bon nombre de récits.
Ça donne envie d'y aller.
Mais ça donne vraiment envie d'y aller. Ah, oui. Ce qui m'a frappé à chaque fois, en fait, quand les gens connaissent réellement ce pays-là, ils en décrivent les senteurs, le soleil, la mer. Enfin, bon, voilà, je ne le connais pas, malheureusement, mais on devine, en fait, que c'était un pays, alors un pays rude, hein, quand même.
Une riviera extraordinaire.
Voilà, mais c'était sans doute...
Alors, tout à la fois montagne et mer, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'il y a toute la Kabylie qui nous fait penser aux montagnes françaises, des Alpes. Enfin,
exactement.
Et puis, il y a en même temps cette mer Méditerranée, cette mer...
Et on interviewe, en fait, dans un prochain numéro également... Le père Michel qui a écrit en fait un livre sur Saint-Augustin et il dit en fait qu'à l'époque romaine le Maghreb en fait l'Afrique romaine était en quelque sorte la Côte d'Azur de Rome.
Oui.
Voilà.
Oui. Que donc les nobles romains y avaient leur résidence.
Et puis c'était le grenier
de retraités.
C'était l'un des greniers avec l'Égypte, c'était aussi en fait toute l'Afrique du Nord, c'était ce qu'on appelait en fait le grenier de Rome. Donc ce qui dit bien en fait la richesse de cette terre. Alors quand les premiers Français, en fait, s'y sont installés à partir de 1830, alors ils ont développé en fait beaucoup d'efforts justement pour mettre en valeur en fait cette terre. Hein. Ça n'a pas été une partie de plaisir, mais voilà, ils sont tombés amoureux en fait de cette Algérie et on le comprend bien. On le comprend bien.
Il faut reconnaître des moments de grande communion. On peut dire, avec les populations autochtones. Il n'y a pas eu que de la discrimination, de l'esclavage.
Non, et pas simplement au moment des fraternisations en fait, du 13 mai 58. Oui. Hein, je veux dire, c'est une histoire commune qui s'était étirée pendant 160 ans. Hein, 1830, quand la France commence à s'installer en fait sur cette terre et constitue d'ailleurs l'Algérie, parce que on va pas dire que la France arrive en Algérie. L'Algérie non. en fait en tant que telle, en tant que pays,
n'existait pas en tant qu'État.
L'Algérie est une création française. Et donc on y arrive en fait en 1830. La Savoie ne devient française qu'en 1860. Donc c'était une terre qui était française bien avant.
C'est Louis Bertrand qui a d'ailleurs le premier à employer le mot d'algérianisme.
Oui.
On peut dire que la France a fait l'unité de l'Algérie.
Puis l'algérianisme, c'est effectivement en fait une culture, c'est tout ce que l'on essaie de raconter justement à travers ce hors-série, en rappelant en fait que parfois on parle de l'Algérie ou du Maghreb comme on dit en terre d'islam. C'est une terre qui a été chrétienne bien avant en fait de devenir
de nombreuses strates
musulmanes. Exactement. Il y a eu des conquêtes en fait en permanence.
N'oublions pas les Kabyles. Qui avaient leur langue, dire leur religion, et qui ont d'ailleurs gardé jusque récemment des traditions chrétiennes, puisque malgré l'éradication, malheureusement, qui a eu lieu, notamment sous Napoléon III, hélas, en les obligeant à prendre des noms arabes, ce qui était quand même une grave erreur. Les femmes mettent une croix, surtout les bébés qui naissent, c'est une tradition qui s'est toujours maintenu en Kabylie.
Vous évoquiez Napoléon III, en fait, la politique des bureaux arabes. Alors, ce qui est vrai, c'est que les bureaux arabes ont toujours tenu, en fait, à l'écart de l'Église, les populations musulmanes. Voilà, l'armée n'a jamais favorisé l'évangélisation de la population musulmane. C'est un fait, c'est un constat historique.
Alors que le cardinal Lavigerie, elle l'a favorisé chez les Kabyles.
Alors que le cardinal Lavigerie, a tenté justement, en fait, créateur des Pères Blancs, donc il est allé bien au-delà de l'Algérie. Il considérait, en fait, que l'Algérie était une porte ouverte, en fait, sur le continent africain. Donc l'Église, en fait, a eu d'ailleurs en fait quelques beaux succès et donc a toujours tenté d'approcher, mais c'est vrai que ni les bureaux arabes à l'époque au XIXe siècle ni Napoléon III d'ailleurs n'étaient réellement favorables à cette politique d'évangélisation.
Incroyable.
Alors que on connaît également ce que Saint-Charles de Foucault a dit, en fait, pour que cette terre demeure française, il faut que ses habitants deviennent chrétiens, quoi.
Et ce qui est assez frappant, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a 250 000 chrétiens en Algérie, c'est en Kabylie qu'ils le sont, et notamment, en tant qu'évangélique.
Oui, mais la Kabylie, en fait, a fait... comme c'était... c'est un peuple, en fait, en soi. Et c'est vrai qu'elle a fait l'objet d'efforts d'évangélisation, plus encore, en fait, que les autres peuples qui habitaient cette terre-là.
Alors même que les catholiques, malheureusement, s'interdisent toute espèce de prosélytisme, ne serait-ce qu'à cause des lois qui existe aujourd'hui en Algérie.
Mais aujourd'hui, il est vrai,
en fait,
que...
On offre une Bible à un musulman, on va en prison.
Aujourd'hui, en fait, le simple fait, en fait, de détenir ou d'avoir dans son sac, en fait, une Bible, peut être considéré comme un délit.
Vous évoquez d'ailleurs le cas de prêtres qui ont été en prison simplement pour avoir participé de manière œcuménique à une cérémonie à l'extérieur d'une église, parce qu'ils sont censés exercer leur apostolat uniquement auprès des chrétiens et à l'intérieur d'une église.
C'est hélas un pays, en fait, qui aujourd'hui est cadenassé, où l'expression de la foi chrétienne est strictement encadrée, et il est très difficile, en effet. Alors on peut espérer que cette venue de Léon XIV aura permis de desserrer un peu ce carcan-là. Quoi.
Alors c'est vrai que là j'aborde un peu les questions qui sont abordées dans votre dossier, mais à la fin de votre dossier, alors même que vous avez choisi de mettre en couverture cette magnifique basilique Notre-Dame d'Afrique à Alger. Alors j'aimerais peut-être que vous me disiez quelques mots de Notre-Dame d'Afrique, puisque c'est finalement la présence de Marie en Algérie. Elle est patronne de l'archidiocèse d'Alger. En 1872, sa basilique a été consacrée par le cardinal Charles Lavigerie, 1825-1892, archevêque d'Alger.
Mais la construction avait été lancée par son prédécesseur.
D'accord.
Monseigneur
Dupuche.
Monseigneur Dupuche. Alors attendez, je retrouve simplement
Cette statue se dresse depuis 1872 au centre du dôme de la basilique. Elle a été offerte par les religieuses du Sacré-Cœur à Mgr Dupuche, premier évêque de la capitale algérienne. Oui. Cette statue en bronze fut réalisée en 1838 par Louis-Isidore Choiseul, bronzier et orfèvre parisien, couronnée d'or. Elle est vêtue d'une parure de velours bleu réalisée par Monsieur Sekal, berbère, musulman, oui. et brodeur de Tlemcen, copie de la Vierge de Bouchardon à Saint-Sulpice à Paris. Elle est connue également sous le nom de Vierge au sourire par la vie de Sainte-Thérèse de Lisieux.
Voilà, mais
cette fameuse Vierge du sourire.
Oui, mais effectivement, c'est le deuxième évêque oui. d'Alger qui a conduit, qui a lancé en fait la construction de cette magnifique basilique qui domine Alger, voilà, et qui domine la Méditerranée également, quoi. Mais voilà.
Vous avez choisi de mettre en couverture cette basilique Notre-Dame d'Afrique, qui, j'espère, est toujours basilique.
Oui. Non, elle est toujours.
Et d'ailleurs, parce que la cathédrale d'Alger ne l'est plus. Mais
alors, il existe en fait toujours une cathédrale à Alger, oui. Hein, mais qui n'était pas en fait forcément la première cathédrale qui était. En fait, la première cathédrale était une ancienne mosquée qui a oui. été retransformée et qui est redevenue en fait une oui. mosquée. Voilà. Mais il y a eu d'ailleurs assez peu de mosquées, hein, il faut le dire, transformées en églises au moment où les Français, à Constantine, il y avait 77 mosquées, je crois, et une seule, en fait, de celles-ci avait été transformée pour être affectée au culte
on
catholique.
On peut pas en dire autant dans le sens inverse.
oui, non, malheureusement. Alors, je crois que les Algériens ont assez respecté, quand même, oui. mais bon, c'est vrai oui. que la cathédrale d'Oran est devenue une bibliothèque. Bon, voilà, il y a eu des transformations consécutivement à l'indépendance, bien évidemment.
C'est ce que disait effectivement celui qui signe la rubrique Alexamenos dans votre magazine. Il me disait que finalement, les Algériens, notamment à Saïda, dans la ville de oui. Saïda, s'étaient opposés fermement, la population musulmane, à la destruction de l'église paroissiale magnifique dont les pierres magnifiques roses avaient servi à créer une résidence au préfet. Préfet oui. qui était mort un mois avant la fin de voilà. la construction de cette demeure.
Qui n'a pas été récompensé de ce mauvais coup, effectivement.
Mais il me disait que la transformation en bibliothèque, etc., finalement, était une forme de préservation.
Oui. Et de fait, en fait, le bâtiment en tant que tel a été, préservé. Et puis, c'est vrai que les Algériens, les musulmans, ont une dévotion à Marie. Voilà, et bon nombre d'entre eux fréquentent justement Notre-Dame d'Afrique ou d'autres sanctuaires qui ont été dédiés à Marie.
Et n'oubliez pas qu'on est passé de 1 million de catholiques en 1900 à 5 000.
Oui, non mais effectivement. Non, mais bien sûr. Et donc,
Alors rappelons que nous évoquons deux numéros essentiels de France catholique avec Fabrice Madouas, et que Radio Courtoisie ne vit que de ses auditeurs, et qu'il faut évidemment l'encourager.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75016, Paris.
Chers auditeurs et auditrices, nous reprenons donc notre conversation détendue autour de ces deux numéros. On peut même dire trois, parce qu'on dira quand même un mot d'un autre numéro de France catholique, très important, à savoir celui qui est paru, on peut dire cette semaine, enfin la semaine dernière.
Celui qui est daté du 10 avril, là, de vendredi voilà. dernier.
Alors, je parlais des très belles illustrations de ce numéro spécial que vous pouvez commander au prix de 8,90 € auprès de France Catholique à partir du
24 avril.
Du 24 avril, voilà. Et vous commencez justement.
Mais on peut le commander dès maintenant. Voilà, le précommander.
Ah, on peut le précommander.
Bien sûr.
Vous êtes très moderne. sur une très belle vue du site archéologique d'Hippone, où prêchait Saint-Augustin, et on aperçoit sur la colline cette fameuse basilique édifiée au XIXe siècle.
Voilà, où Léon XIV est allé célébrer la messe hier. Voilà, pour un discours très, très spirituel sur l'Église. Très beau discours. Oui. Voilà, où on a perçu en fait toute la profondeur justement spirituelle du
pape. Certains y ont même vu une sorte de profession de foi de son pontificat.
Oui, non, mais
puisqu'il veut révolutionner en quelque sorte l'Église, mais en la ramenant à la vie intérieure, voilà. À la culture de la vie intérieure.
On disait en fait qu'il était très christocentré, oui. et effectivement c'est si vous me permettez en fait de citer quelques-uns de ses mots, il commentait en fait l'Évangile du jour. Il dit assurément les chrétiens naissent d'en haut, régénérés par Dieu en tant que frères et sœurs de Jésus, et l'Église qui les nourrit par les sacrements est un sein maternel accueillant pour tous les peuples de la terre. Voilà. Aujourd'hui, nous devons accueillir et mettre en œuvre cette règle apostolique en la méditant comme un critère authentique de réforme ecclésiale, une réforme qui, pour être vraie, commence par le cœur et qui, pour devenir efficace, concerne chacun. Et il insiste évidemment en fait sur la prière, l'unité spirituelle des croyants et la charité, évidemment, qui doit animer tous les chrétiens.
L'Eucharistie, la charité, l'unité. Voilà. Alors, un article historique très intéressant de Guillaume Zeller, pour commencer.
Oui, absolument. Qui retrace l'histoire de cette Algérie chrétienne, des débuts de l'Algérie chrétienne et de sa fin.
En disant bien qu'il y avait une forte implantation des chrétiens.
Il y avait 500 évêchés en Afrique du Nord au moment où l'islam s'est implanté. 500 évêchés. Alors c'est une terre qui a été effectivement battue, j'allais dire, par différents peuples. Hein. Donc elle a été chrétienne. Il y a eu les barbares qui ensuite, les vandales qui ensuite ont conquis cette terre. Il y a eu bon nombre d'hérésies qui ont fleuri, notamment l'hérésie arienne qui d'une certaine façon a ouvert la porte aussi à la conquête musulmane. Donc voilà, il y a eu beaucoup de peuples qui s'y sont succédés. Et puis, même à l'époque où l'Algérie était devenue musulmane, les Espagnols ont tenté de s'y réimplanter, ont ouvert en fait...
La croix, c'est son retour à la faveur de la Reconquista.
La Reconquista, exactement. Ne pas oublier non plus que c'est une... on parle de la terre d'Afrique du Nord, mais que la mer Méditerranée a été longtemps dominée, malheureusement,
par
les pirates barbaresques.
Oui.
Et donc, il y avait en fait bon nombre d'enlèvements de chrétiens qui étaient ramenés dans cette terre devenue musulmane. Et l'Église avait d'ailleurs créé des ordres. Les Trinitaires et les Mercédaires qui rachetaient les esclaves chrétiens, les captifs chrétiens, et parfois au prix de leur vie, parce qu'ils allaient jusqu'à se substituer, quand la rançon n'était pas encore arrivée, jusqu'à se substituer aux captifs dont ils s'apprêtaient à payer la rançon. Oui. Et certains ont fini martyrs.
N'oublions pas Saint Vincent de Paul. Hein,
Saint Vincent de Paul, absolument.
Qui lui-même a participé
à
ces rachats.
Oui, mais qui lui-même d'ailleurs a été capturé.
Qui
a été capturé et qui ensuite a participé au rachat en fait, de ses frères chrétiens.
Alors évidemment, un chapitre sur l'Algérie française.
Oui.
Alors d'ailleurs, un détail que peu connaissent, c'est que vous évoquez que les entraves à l'évangélisation sont notamment dues à la présence de loges maçonniques puissantes.
Oui, 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 c'est vrai.
Ce que je ne
savais
pas.
C'est vrai. Je pense qu'il y avait en fait une forme de concomitance peut-être entre la présence de l'armée, les loges maçonniques. C'est vrai que voilà, il a pu y avoir effectivement un certain nombre de soldats qui, tout en étant maçons, pouvaient freiner justement l'évangélisation. Je pense que c'est historiquement, je pense que
les loges sont puissantes en Algérie. Écrivez-vous, enfin, en tout cas celui qui a rédigé ce très bel article.
Oui, Guillaume Zeller.
Voilà, les loges sont puissantes en Algérie, des facteurs humains également, les effectifs du clergé sont relativement limités, des facteurs culturels, la loi coranique est très structurante, ou encore linguistique, rares sont les missionnaires qui parlent alors l'arabe ou les dialectes locaux. Toutefois, la création en 1868 de la Société des missionnaires d'Afrique, surnommée Père Blanc, et vous en avez parlé tout à l'heure
par le cardinal,
avec le cardinal Lavigerie, traduit bien l'ambition missionnaire qui entend s'exercer en priorité sur les Kabyles, jugés plus perméables à l'annonce de l'Évangile.
Voilà. Non, mais je crois que les choses sont dites assez clairement. Effectivement, oui. C'est entre 1830 et au moment où l'Église commence à s'implanter un peu plus, il se passe 3-4 décennies. Bon, alors, à partir de 1870, enfin, ça va peut-être...
Et même lorsqu'elle ne pratique pas le prosélytisme religieux auprès des musulmans, elle le pratique par ses œuvres, on peut dire, et par la charité.
Oui, par la charité. Elle a créé en fait énormément de d'écoles, de dispensaires. Enfin voilà, elle a pratiqué en fait ses œuvres, la foi et les œuvres.
Les pauvres, ce qu'on lui a interdit, le gouvernement algérien lui a interdit. Au début des années 2000, ce qui est quand même incroyable.
Oui, alors il existe encore... alors le gouvernement français, rappelons-nous aussi, en fait, au début du 20e siècle, a chassé en fait bon nombre de congrégations.
Ah bah oui.
Et il y a des lycées qui avaient été créés en fait par des religieuses notamment, qui ont été obligées de fermer en Algérie. Alors il subsiste encore quand même, heureusement, des œuvres chrétiennes en Algérie. Et d'ailleurs, le pape Léon XIV est allé hier saluer les petites sœurs des pauvres qui ont une maison, qui y sont encore et qui accomplissent une œuvre admirable là-bas comme partout.
Donc il faut de dire qu'il n'existe plus d'œuvres de charité.
Non, certaines s'y maintiennent, bien heureusement, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Finalement, l'Église catholique a une représentation institutionnelle qui, même si l'expression de la foi est très cadenassée et très encadrée, demeure. Ce qui finalement souffrent peut-être le plus, ce sont les protestants ou les évangéliques qui, eux, n'ont pas... devaient déclarer, en fait, des lois ont été prises pour que chaque groupe évangélique, en quelque sorte, ou chaque église évangélique, se déclare et le pouvoir en place a fait le nécessaire pour qu'ils ne puissent pas le faire, finalement. Et donc, les protestants souffrent aussi beaucoup en Algérie.
Ce qui est assez frappant, c'est que vous citez deux archives.
Oui.
Hein, l'une du 15 juin 1962 et l'autre du 21 septembre. L'une rédigée par Pierre Gajac, qui dit que le rapatriement des chrétiens ne doit pas être un exil, parce qu'on parlait de 8 000 par jour.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a plus de 800 000, en fait, qui, en un mois, quasiment, en fait, ont quitté... C'est vraiment la valise, la valise ou le cercueil. Voilà. Et puis, le drame des Harkis, également.
Et puis, Jean de Fabrègue, donc, votre grand directeur.
Voilà, l'un des grands directeurs, en effet, de France catholique, qui avait pris la plume pour...
qui a défendu les Harkis et supplétifs.
Voilà, exactement. Oui. Évoquer le sort des Harkis. Et il faut dire que malheureusement, ça n'est pas à l'honneur de la France de les avoir abandonnés.
Je prie, écrivait-il, je prie d'abord pour que le nom du Christ ne soit pas maudit et blasphémé, parce que les chrétiens ont laissé faire cela sur la terre où saint Augustin a prié, et je demande aux lecteurs de France catholique de prier avec moi.
Mmh. Oui, non, mais c'est l'allure. C'est un beau texte. Oui. Et franchement, quand on se replonge dans les archives de France catholique, bon, on a quand même 100 ans, donc on a une certaine profondeur qui a imprégné aussi en fait, le caractère du journal. Et c'est vrai qu'il y a de très, 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 très beaux textes, et France catholique a été très lucide aussi en fait, sur la question algérienne.
Alors, il y a un article, notamment, dans ce numéro, Saint-Charles de Foucault face à l'islam, une relation sans ambiguïté.
Oui, parce qu'effectivement, très belle interview.
On parle souvent de la dimension de frère universel,
oui,
qui est développée par Charles de Foucault, qui ferait abstraction, du coup, de la nécessité, finalement, d'annoncer l'Évangile.
Non, mais ça n'était pas... Enfin, Charles de Foucault n'était pas un tiède, donc il avait une perception du dialogue.
Et Constantin Vergène, qui écrit beaucoup d'articles pour vous, s'en prend à cela, parce qu'il écrit donc que mal interprété, le regard de Charles de Foucault sur l'islam peut conduire à des dérives syncrétistes problématiques.
Voilà, mais heureusement, l'interview qu'il a faite de Laurent Touchag permet de rétablir les faits. On citait en fait la lettre de Charles de Foucault à René Bazin au début du XXe siècle, où il disait réellement que...
Il pense que les musulmans peuvent se convertir.
Voilà, exactement.
Et nous sommes tous faits pour la vérité.
Et il écrit également « Le seul moyen que les musulmans d'Afrique du Nord deviennent français est qu'ils deviennent chrétiens. Oui. » Voilà, donc il y a vraiment en fait une...
Il y a même une dimension prophétique.
Il y a une dimension absolument prophétique. Hein. Mais voilà, donc on est heureux justement en fait de rétablir quelques vérités, quelques idées reçues. Charles de Foucault n'a pas été fasciné par l'islam. Il a été parfois par la profondeur de la foi de certains musulmans, mais ça a favorisé en fait sa propre conversion, mais il s'est converti au catholicisme.
Et d'ailleurs, il n'est pas le seul à avoir vécu cette expérience, puisque Ernest Psychary, c'est en voyant effectivement la piété musulmane, il s'est dit, mais... Moi, qui suis baptisé catholique et qui finalement ne pratique pas, enfin, il ne pratiquait pas, il se sentait comme en décalage et presque humilié par cette vertu de piété.
Oui, oui, oui. Mais voilà, on peut se demander aussi pourquoi, tant de l'islam est présente en fait désormais en France. Je veux dire, peut-être est-ce un appel aussi aux chrétiens, aux Français, de se convertir et de retrouver aussi en fait leur foi.
La laïcité. De ne pas laisser détruire nos églises.
On évoquait la laïcité mal comprise en début d'entretien. Mais est-ce que la laïcité en fait permet de combler la soif d'éternité que l'homme a en son cœur? C'est la question qu'il faudrait se poser. Oui. Est-ce que la laïcité est la réponse réelle à l'islam?
Elle ne l'est certainement pas.
Je pose la question. vous doutez que j'ai une certaine, une certaine idée.
C'est-à-dire qu'on ne remplace pas l'islam, une foi, une religieuse, par du vide. C'est ça le problème.
Voilà, vous l'avez dit. Vous l'avez dit, cher Benoît.
C'est l'humain trop humain.
Mais oui, dirait oui, Nietzsche. C'est voilà, et puis si l'homme n'est que sa propre mesure, à ce moment-là, il n'est pas grand-chose quand même. Hein. Quoi qu'il puisse faire de beau, par ailleurs.
Mais bon. Une terre de saints.
Oui, une terre de saints.
Vous donner quelques exemples.
Oui, quelques exemples. Hein.
Assez éclairants, parce que...
Ils n'y sont pas tous, mais en fait, ce sont quand même...
Il y en a même qui se trouvent au canon de la messe, enfin, disons, dans le canon romain.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
La prière eucharistique numéro 1.
Voilà, Saint-Cyprien, Sainte Félicité...
Félicité et Perpétue.
Et Perpétue, voilà, donc c'est deux des quelques saints, en fait, que l'on cite. Il y a eu les martyrs également, quasiment 5000 martyrs d'Afrique, martyrisés, eux, par les Vandales, à la fin du 5e siècle. Il y a cette belle figure aussi de Martienne de Césarée, Sainte Martienne, voilà, qui est allée au martyr. Bon, donc il y a effectivement, c'est une terre de saints, et d'ailleurs, en fait, le pape Léon...
Et l'on doit à Saint-Cyprien de Carthage, donc...
Oui.
La formule hors de l'église, point de salut.
Hors de l'église, point de salut, voilà. Donc,
ce qui n'était pas très libéral.
Non, mais on est heureux de rappeler, en fait, de ressourcer, c'est un peu aussi l'ambition de France catholique, de cet hebdomadaire, hein, 45 numéros par an, hein, puisqu'il y a une petite interruption pendant l'été. Mais voilà, on essaie chaque semaine, justement, de nourrir cette foi, de l'enraciner, de la réenraciner.
C'est un magazine extrêmement dense.
40 pages.
Je suis en admiration, moi qui fais de l'édition, devant vous, parce que vous renouvelez cela toutes les semaines.
Oh, écoutez, on a quand même une belle équipe, une belle petite équipe.
Une équipe plus nombreuse que la mienne, c'est vrai. C'est vrai.
non, mais en tout cas, voilà, sous la direction d'Amérique Pourbé, on réussit à faire de belles choses.
Franchement, moi j'ai du chapeau. Et vous avez aussi l'art d'illustrer.
Hein, oui.
Vous avez un fond d'illustration absolument remarquable. Je ne sais pas qui s'occupe de cela chez vous, mais...
Mais en fait, chaque rédacteur puise un peu, en fait, chaque journaliste puise un peu dans différentes sources. Et c'est vrai qu'on essaie de privilégier le beau, et plutôt des œuvres que de simples photos d'actualité, même si on ne néglige pas l'actualité et qu'on en traite dans le journal, bien évidemment.
Alors figurez-vous que nous n'aurons pas le temps finalement d'aborder la suite de ce dossier consacré donc à l'Algérie, l'épopée de l'Algérie chrétienne. Mais j'invite donc évidemment les auditeurs et auditrices à commander urgemment ce numéro qui abordera la question également de la fameuse basilique de Santa Cruz.
Oui, oui, bien sûr. Alors, il est plus simple, il est recommandé en effet de le commander soit sur notre site internet, soit par téléphone, soit en nous écrivant, parce qu'il n'est pas certain en fait que vous le trouviez partout en kiosque en termes de distribution. La distribution, c'est quelque chose de très coûteux, mais en tout cas, voilà. Donc,
et on verra que les fameux rapatriés ont créé un véritable sanctuaire à Nîmes.
À Nîmes, absolument, ouais. Rapatrié en fait d'Oran, pour beaucoup, hein, puisque le sanctuaire de Santa Cruz a été édifié à Oran.
Alors j'ajoute un dernier mot, puisqu'il nous reste une minute, simplement que vous avez consacré, dans votre numéro du 10 avril 2026, un dossier particulièrement complet sur Marie-Yvonne Aimée de Malétroit,
voilà.
Amoureuse du bon Dieu, à partir du livre du père Joël Guibert, livre absolument admirable, et qui montre à la fois la sainteté, les charismes extraordinaires de cette femme, à la fois religieuse,
hospitalière,
résistante, grande résistante,
voilà, absolument.
Et dotée de charismes absolument incroyables, qui ont fait tellement peur à son évêque que le procès, n'est-ce pas, de béatification, ou en tout cas déjà de l'héroïcité de ses vertus, n'est pas encore, hélas, ouvert.
Il est en cours.
Bon, eh bien, vous me rassurez. Mais on lira avec donc bonheur ce numéro. Je signale donc l'adresse de France catholique, 21 rue de Varilhes, 75016, et l'abonnement annuel est de
55 euros. Le tarif pour 45 numéros. Voilà, ça fait moins d'€1,50 le numéro.
Merci beaucoup Fabrice Madras.
Non, merci cher Benoît, et merci aux auditeurs et également de Radio Courtoisie.
À très bientôt chers auditeurs.
Entendre au fil des pages dirigé par Benoît Manchon, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 15 avril 2026 de 10h à 11h et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.